Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette émission par la préoccupation essentielle des jeunes en ce moment, les examens. Les réparations post-communistes en Roumanie, rien n'est réglé. Au niveau immobilier, ce sont les plus fragiles qui trinquent. Les plages et tout le patrimoine naturel à vendre en Grèce, les associations s'inquiètent. Et enfin, une visite touristique pas comme les autres aux Pays-Bas, le Black Heritage Tour. C'est donc de saison, ils révisent un peu partout en Europe, le bac en France, les examens de fin d'année dans les facs. Au Royaume-Uni, les étudiants tentent de se débarrasser du stress comme ils peuvent. Le syndicat des étudiants de l'université de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, a même trouvé des méthodes très originales pour se détendre. Marie Billon nous en dit plus.
Adieu boule au ventre, bonjour bubule et boule de poil. Pour se déstresser, le syndicat étudiant de l'université de Leicester a décidé de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, thinking outside the box. Ils ont demandé à leur université et ont obtenu le droit de proposer des méthodes douces et originales aux étudiants en pleine révision pour les partiels. Dans les couloirs de l'université, ils vont pouvoir s'arrêter à des barabules. Pas de champagne, le temps n'est pas encore aux réjouissances, mais des mètres et des mètres de papier bulle mis à disposition dans des popping stations. Le syndicat étudiant estime qu'il y a une satisfaction immédiate à éclater ces petites bulles, bref, de quoi buller efficacement. Mais le papier bulle n'est qu'un des aspects de la stratégie anti-stress. Après la popping station, la puppy station, une sorte de petit salon où les étudiants peuvent venir caresser des chiots. D'après le syndicat étudiant, rien de tel pour se déstresser que de caresser et de jouer avec des bébés chiens. Il faudra s'acquitter du prix d'une livre pour avoir accès au toutou déstressant cependant. À côté de ces méthodes un peu farfelues, l'université garde les bonnes vieilles méthodes. Séances avec des psychologues, des espaces calmes ouverts très tôt et très tard pour les révisions, du thé à volonté et des jeux de société dans le bar étudiant pour se détendre de manière conviviale. Le but du syndicat étudiant est d'encourager les méthodes douces pour se détendre et d'éviter ainsi l'utilisation des smart pills, ces fameuses pilules qui ne rendent pas plus intelligents en fait, mais qui sont censées garder l'esprit des étudiants en alerte pour des nuits entières de révision, la pire des stratégies selon tous les médecins.
Les jeunes européens. La chronique.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors vous l'avez entendu, un des chiots et des petites bulles de plastique a éclaté frénétiquement. Telle est la solution pour les étudiants de Leicester. Mais Eve, il en existe des bien plus nocives pour réviser en période d'examen.
Oui, et surtout au Royaume-Uni, un des pays européens les plus concernés par ce phénomène. Selon le Guardian, le quotidien anglais, un étudiant sur cinq aurait recours à ces drogues en période de révision. Dans ce pays où la scolarité coûte très cher, la pression est à son maximum pour les étudiants à la traîne. La moitié des consommateurs déclare dans un sondage obtenir ses cachets sur Internet. C'est d'ailleurs cela qui inquiète le plus les observateurs aujourd'hui. L'automédication des jeunes qui, grâce à l'outil Internet, font des diagnostics à la va-vite sur les forums avant d'acheter un peu n'importe quoi en ligne. Une tendance qui s'affirme et qui guette aujourd'hui les autres pays européens.
Notamment la France, évidemment les jeunes français.
Selon l'Observatoire de la vie étudiante, ils sont environ 16% en France à céder avec des médicaments pour améliorer leur capacité intellectuelle pendant une période d'examen. La plupart du temps, ils se contentent de café ou de vitamine C, mais de plus en plus, les pharmacies proposent à la vente des packs exam, une double cure contre le stress et pour favoriser la mémoire, des produits souvent à base de plantes qui, pris en respectant les doses prescrites, ne présentent a priori aucun danger.
Contrairement à d'autres produits, Eve, bien plus costaud que les étudiants vont carrément chercher sur Internet.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Il s'agit de la Ritaline ou de la Modafinil, un produit qui a largement connu son succès sur les campus américains et qui arrive donc aujourd'hui en Europe. Les étudiants européens, vous l'avez dit, peuvent l'acheter en ligne en quelques clics. Et là, on est très loin des produits naturels vendus sans ordonnance dans les pharmacies. Et les risques pour la santé non plus ne sont pas les mêmes. La plupart des boîtes vendues sont contrefaites. Aucun moyen de vérifier leur composition. À long terme, les jeunes adeptes diabète risquent des problèmes cardiovasculaires graves, des troubles du sommeil prolongés ou des pertes d'appétit.
Alors en revanche, une drogue pourtant très populaire chez les jeunes voit paradoxalement sa consommation diminuer chaque année au moment des examens, c'est le cannabis.
C'est en tout cas ce que révélait une étude européenne sur l'usage de l'alcool et des stupéfiants à l'école. Le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée chez les jeunes européens et les jeunes français sont les champions d'Europe en la matière. Aujourd'hui, environ 7% des élèves de terminale en France seraient des consommateurs réguliers de cannabis. Pour cela, il est recommandé d'arrêter au moins 5 semaines avant le début des examens, c'est déjà un peu tard.
Oui, 5 semaines, hein, il reste plus beaucoup de temps. Alors la deuxième drogue la plus consommée selon l'OEDT, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, eh bien c'est la cocaïne, période d'examen ou non. Hein.
Puissant stimulant censé réduire les sensations de fatigue et surtout faciliter la concentration, la consommation de cocaïne a fait un véritable bond chez les lycéens. C'est assez inquiétant en raison notamment de son coût qui a beaucoup baissé. 2 millions de jeunes européens aujourd'hui seraient des consommateurs réguliers.
Bon, on va terminer quand même sur une note un peu plus positive. Vous nous proposez, Ève, les petits remèdes de grand-mère pour réussir ces examens grâce aux plantes.
Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation mondiale de la santé, la très sérieuse institution, veut promouvoir les médecines traditionnelles douces. Ce qui, ramené au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donne à peu près ceci. Une tisane de tilleul avant d'aller se coucher, l'aubépine pour calmer les crises d'angoisse avant les grosses épreuves et le romarin pour stimuler l'intellect. Pour accompagner tout ça, manger des bananes, du chocolat et surtout des fruits secs. Les Allemands en raffolent. Ils ont même un mélange dédié aux étudiants que l'on trouve un peu n'importe où, le Studentenfutter, littéralement le gavage pour étudiants.
Et évidemment, ça marche avant de passer en studio, en direct.
Ça marche aussi, oui.
Merci Eve Mino, à la semaine prochaine. Ans après la chute du régime Ceausescu, la Roumanie n'a toujours pas résolu la rétrocession des maisons qu'elle a nationalisées sous le communisme. Contrairement aux autres pays du bloc socialiste, les biens confisqués ont été restitués aux anciens propriétaires en nature et non pas financièrement. La fameuse loi 10, créée en 2001, censée réparer les préjudices, a eu de nombreuses répercussions. Les premiers touchés sont ceux qui louaient à l'État ces anciennes maisons nationalisées, souvent pauvres, généralement roms. Ces familles se font expulser à tour de bras dans toutes les villes de Roumanie. Par manque de logements sociaux, une bonne partie d'entre elles se retrouve du jour au lendemain sans toit au-dessus de sa tête. Pour lutter contre ces vagues d'expulsion, des militants et des familles d'évacués ou en passe de l'être ont créé le Front commun pour le droit au logement. Une première en Roumanie, Julia Burke les a rencontrés.
Le 18 octobre dernier, à la veille de la trêve hivernale, Vassile Grouia et sa famille ont été expulsés de la maison qu'ils louaient aux autorités roumaines. Cela faisait 23 ans qu'ils logeaient là, mais à la suite d'un long procès contre l'État, l'église roumaine a récupéré son bien. Église ou pas, la sanction a été sans appel. Vassile Grouia a donc perdu son logement, mais aussi son travail. Son patron lui ayant reproché ses nombreuses absences, du temps que Vassile avait consacré à essayer d'empêcher son expulsion. À 50 ans, il se dit amer.
On a été expulsés comme des chiens, c'est quand même incroyable. J'avais un logement et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la rue. À 50 ans, j'en suis arrivé à regretter d'avavoir vécu dans mon propre pays.
Plutôt que de se retrouver à la rue, Vassile s'est réfugié chez sa mère. À 70 ans, Vassilika héberge donc la famille de son fils et celle de sa fille, soit 10 personnes dans un 3 pièces au dernier étage d'une vieille maison bourgeoise. Alors, tant bien que mal, la famille Grouia a dû s'organiser. Sous les combles, on a reconstitué un semblant de cuisine avec les meubles qu'on avait avant. On a laissé les habits, la vaisselle et les livres, bref, toute son ancienne vie dans les cartons. Car pour le moment, les Grouia n'ont pas le choix. Des milliers d'expulsés sont sur liste d'attente pour obtenir un logement social auprès de la mairie de Bucarest. Et les places sont chères.
Voilà 9 ans que j'ai déposé un dossier à la mairie, au fonds locatif, mais je n'ai eu aucune réponse. Ils me disent juste qu'ils n'ont pas d'argent pour construire des logements sociaux. Mais où voulez-vous que j'habite? Comment voulez-vous que je paye un loyer à un particulier, sachant que je gagne 150 euros par mois? Si en plus je dois payer les charges, qu'est-ce qu'il me reste pour manger? Nous qui n'avons pas d'argent, personne ne s'intéresse à nous.
Mais le cercle vicieux des expulsions est loin de se terminer. La maison louée par Vassilika a été rétrocédée à son propriétaire il y a à peine un an. Selon la loi, les locataires des maisons nationalisées peuvent y rester encore 5 ans en payant au propriétaire un loyer modeste. Les grouillats ont donc 4 ans de répit pour trouver une solution avant d'être de nouveau mis à la rue. Pour Vassilé comme pour d'autres, cette situation est devenue intolérable. Des personnes expulsées ou en passe de l'être, ainsi que des activistes, ont décidé de réagir. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif, le Front commun pour le droit au logement. En ce dimanche après-midi, on s'est réunis dans la cour de Vassilika, au numéro 68 de la rue Romulus. On boit des cafés, on fume des cigarettes, mais surtout, on essaie d'imaginer des solutions collectives à ce problème. Victor Vosian, l'un des activistes, se désole du peu d'implication des autorités.
Pour moi, c'est clairement un manque de volonté politique, car c'est le droit des propriétaires qui prime. Si on regarde bien, c'est une motivation assez idéologique. On a vécu 50 ans de communisme, et maintenant, en signe de réparation, il faut leur rendre ces maisons. Mais personne ne s'intéresse aux conséquences de ces décisions de justice. Personne n'en parle, que ce soit dans les mairies ou dans les médias.
Le collectif essaie donc de promouvoir le droit au logement dans le débat public. Grande manifestation des expulsés, procès collectif contre l'État ou encore occupation de logements sociaux inutilisés, les idées pour faire pression sur les autorités ne manquent pas. Mais qui sait, peut-être assistera-t-on cette année à un printemps des expulsés roumains.
La Grèce, ce n'est pas que la crise, ce sont aussi des plages de sable fin, des sites naturels époustouflants. Mais justement, la crise joue aussi son rôle dans la destruction de l'environnement, car le fonds chargé de conduire les privatisations et de liquider le patrimoine de l'État grec met en vente plages, sources thermales et sites naturels, des joyaux livrés aux appétits des spéculateurs et des groupes hôteliers. Le gouvernement souhaite même accélérer ses ventes avec un texte qui risque de faire voler en éclats la loi de protection du littoral, ce qui provoque la levée de boucliers des associations de défense de l'environnement. Et le reportage de Charlotte Stievenard commence chez Arkelon, les protecteurs des tortues marines qui ne trouvent plus où nidifier à cause du bétonnage des côtes.
Caterina a d'abord regardé à droite, puis à gauche avant de s'avancer dans la mer. Caterina, c'est une tortue marine de la race Kawan. Blessée, elle a été recueillie et soignée par l'association Archelon, qui s'occupe de leur protection depuis presque 40 ans. Elles sont toujours menacées, mais en Grèce, leur situation s'est améliorée. Il y a eu une prise de conscience sur les questions environnementales, explique Pavlos Tsaros, le coordinateur de l'association.
Moi, de mon côté, je vois plus de bénévoles grecs qui viennent se joindre à nous. On en a aussi sur les plages qui viennent travailler avec nous l'été. Je pense que la jeune génération est vraiment intéressée d'aider la nature.
À l'ouest du pays, Archelon a créé le parc de Zakynthos où les tortues peuvent pondre leurs œufs sur la plage sans risque. Mais ailleurs en Grèce, comme en partie en Crète, le bétonnage des côtes a fait baisser le nombre de nids. Fin mars, la Commission européenne a donc décidé d'assigner la Grèce devant la Cour de justice européenne car elle n'appliquerait pas les mesures pour protéger ses tortues de mer. Mais ce que révèle le problème de nidification des tortues, c'est un problème plus vaste de conservation des zones côtières. Car en Grèce, si la loi locale sur le littoral est très stricte, son application l'est moins, comme par exemple au Pirée.
The coastline is somewhere here.
La ligne de démarcation du littoral passe à peu près là. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire d'ici jusqu'au bord de l'eau. Donc ce bar là-bas est illégal. Et la moitié du terrain de basket municipal, qui est ouvert à tous, est aussi illégal.
Yorgos Karistinos a la trentaine. Il fait partie d'un comité de citoyens du Pirée qui lutte pour sauvegarder les plages dans cette ville dense et bétonnée. Avec le comité, il accuse la mairie d'avoir facilité la légalisation d'un bar construit sans autorisation 15 ans plus tôt, une pratique courante en Grèce. Parmi les constructions illégales, on trouve des bars, des maisons, mais aussi des villas et des hôtels. Dans certains cas, un permis existe, mais le terrain occupé est finalement beaucoup plus grand que prévu ou une piscine est rajoutée en bord de plage. La prise de conscience est toute récente au sein des pouvoirs publics. Il y a seulement 2 ans et demi, un secrétariat général de la propriété publique a été créé au sein du ministère des Finances. Dans sa cinquantaine de bureaux locaux, il recueille les plaintes pour construction illégale le long des côtes et effectue des contrôles. Ces derniers temps, la somme récoltée grâce aux amendes a augmenté. Selon son directeur Avram Gunaris, le travail commence à porter ses fruits.
On fait plus de prévention et les lois sont plus strictes. Les employés sont plus responsabilisés. Ils sont obligés de faire leur travail correctement, ils sont plus compétents et aussi plus appliqués dans la rédaction des protocoles.
La coopération avec les communes a été renforcée et une réorganisation devrait permettre de mieux accéder à certaines zones. Mais les moyens continuent de manquer. L'essence est rationnée et les voitures peu nombreuses pour surveiller les 18 000 km du littoral grec. Mais pour les associations de protection de l'environnement, les contrôles ne sont pas le problème principal. Une fois l'illégalité des constructions en bord de mer constatée, ces constructions sont très rarement détruites, car les enjeux locaux pour les mairies sont très importants. L'impact sur l'environnement est donc irréparable. De plus, la nouvelle loi pourrait renforcer prochainement les propriétaires indélicats. Le projet a été provisoirement retiré avant les élections, mais il pourrait revenir pendant l'été. Grâce au versement d'une simple amende, les propriétaires pourraient alors légaliser leur propriété construite avant la loi et la taille des zones non constructibles le long de l'eau serait réduite. Pour Yorgos Chatsiotis, juriste de l'ONG du Fonds mondial pour la nature, cette loi est le produit de la crise.
L'État a besoin de fonds, il regarde où il peut récupérer de l'argent. Une des solutions, c'est de faire payer les propriétaires de constructions illégales. L'État est aussi plus vulnérable aux pressions des investisseurs qui cherchent à faire des acquisitions plus importantes. Et forcément, ils veulent avoir accès à la côte et aux plages privées.
Un autre phénomène pourrait également avoir un impact sur le bord de mer. La Taiped, l'organisme chargé de vendre les biens de l'État pour rembourser la dette, a ajouté dernièrement un grand nombre de plages à son portefeuille. Là encore, en absence de contrôle efficace, ces privatisations inquiètent les protecteurs des tortues kawanes.
Pour terminer, Sabine Sessou nous invite à visiter Amsterdam avec un autre regard à travers le Black Heritage Tour, une promenade en bateau sur les canaux pour redécouvrir le passé esclavagiste et colonial des Pays-Bas, une visite guidée qui attire notamment un public africain et afro-américain.
C'est Jennifer Tosh, une africaine-américaine installée à Amsterdam, qui a eu la bonne idée d'organiser ce Black Heritage Tour dans sa ville d'adoption. Ce tour par bateau sur les canaux d'Amsterdam revient sur le rôle joué par les grands commerçants de la ville dans la traite négrière. Les Pays-Bas, qui ont colonisé l'Indonésie, n'ont jamais eu de colonies en Afrique, mais ils ont installé des comptoirs sur les côtes africaines, notamment au Cap. On trouve dans la ville beaucoup de représentations d'Africains, anciens esclaves ou non. Jennifer Tosh désigne du doigt les têtes noires sculptées sur les édifices et les palais de la ville. Petits pages ou servantes, les visages d'esclaves sont aussi présents sur les toiles qui représentent les familles des grands commerçants. Dans les maisons de canal où le tour s'arrête, des pauses sont organisées dans les musées de la ville pour visiter la réplique d'un navire de l'ancienne Compagnie des Indes ou voir d'autres tableaux. Le tour n'oublie pas de parler des questions raciales d'aujourd'hui avec les polémiques sur le Swarte Piet, ce Pierrot le Noir qui accompagne Saint-Nicolas dans la tradition. Les représentations de ce personnage rappellent parfois les pires stéréotypes sur les Africains. Le Black Heritage Tour se termine au pied d'une sculpture en bronze, un monument national érigé à la mémoire des esclaves dans l'Oster Park. Au final, une visite instructive qui regarde le passé sans complexe. On aimerait bien suivre le guide et en voir autant dans les anciennes métropoles coloniales que sont Paris, Londres ou Lisbonne.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation Françoise Grelot. Vous en saurez plus sur nos émissions à travers Facebook ou sur le site RFI.fr. Restez à l'écoute dans un instant les infos.